Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Radio Campus Lille le dimanche de 11h à midi, une émission aujourd'hui 100% sportive, parce que pour commencer nous allons retrouver Gilles Fagnan en direct du 76e Boldor là-bas à Manicourt. Gilles, est-ce que tu es en ligne?
Oui, bien sûr, je suis en ligne comme prévu.
Que se passe-t-il à 11h après, ça fait combien, 18h de course là?
Même après 19h.
À 19h, oui.
Des brouettes. Voilà, alors en fait, c'est le CERT de Suzuki Endurance Racing Team qui mène la course, encore à 3 secondes devant la Kawasaki numéro 11 du SRP, avec 3 secondes 2 d'avance à peu près. Et en troisième position, on a la Yamaha 94, GMC 94, qui est talonnée par la numéro 7, Monster Energy. Deux tours derrière elle. Et donc la bagarre fait rage, quoique les temps autour sont moins élevés que d'habitude, puisqu'ici les conditions climatiques sont changeantes, il pleut, il tombe de quelques gouttes et ensuite ça sèche, donc la course se vit au rythme des incessants changements de pneus, puisque les pneus pluie se dégradent tellement vite que de toute façon on ne peut pas rester en pneus pluie quand la piste est séchante, donc il faut chausser des intermédiaires et donc le bal des ravitaillements est complètement intense ici. Actuellement, on vient de vivre une situation spectaculaire de la Honda TT Légende, la première Honda en sixième position au scratch. Vous savez, c'est John McGuinness, le champion de Lindemann. Hein. Donc on voit que la Honda a beaucoup progressé. Ceci dit, là, les conditions sont tellement changeantes et la piste est extrêmement piégeuse. Et d'ailleurs, le leader hier, Vincent Philippe, qui visait la 8e victoire Boulder, qui aurait été un record, a chuté lui aussi et s'est brisé la clavicule. Ce qui fait qu'au CERT, chez Suzuki, on termine avec seulement deux pilotes. Fabien Forêt, qui est un pilote engagé en Superbike, et puis Anthony Delalle. Et il termine la course à deux depuis déjà un bon moment, hier à 19h déjà. Donc ils font la course à deux, ce qui est un exploit humain assez impressionnant. Alors là ils viennent de rentrer au stand et la Kawasaki va certainement prendre la tête de la course. Le GMC joue des gros points sur le championnat du monde puisque la Kawasaki n'est pas engagée en championnat du monde, elle fait clairement le bol. Et actuellement, donc la GMC 94 est en passe de peut-être réaliser un bon score en niveau championnat du monde. L'avenir nous le dira, on ne sait pas si le dessert ça va réussir à tenir. Alors les temps autour sont relativement élevés puisqu'on tourne ici en, à peu près en 2 minutes, 2 minutes autour, alors que le temps sur le sec c'est plutôt une 40. Donc vous voyez que bon, la course est relativement ralentie. Mais ceci dit, la passion est là, il y a vraiment une vraie bagarre entre cette Suzuki de tête, la Kawasaki qui est en deuxième position et les trois Yamaha qui suivent puisque en quatrième position, vous avez la Yamaha Folch Endurance de la Yamaha espagnole, emmenée notamment par Ribalta. Et vous savez aussi qu'il y a deux classements. Il y a le WC, hein, la catégorie reine, et puis le Super Stock, les motos avec des moteurs stock. Alors à ce petit jeu, c'est la numéro 24 3D Endurance, le team d'Emmanuel Labussière, qui réalise une vraie performance en se hissant à la 7e place. Première Super Stock. Alors en fait, à partir de la 7e place jusqu'à la 11e place, ce ne sont que des Super Stock. Alors en fait, on voit bien qu'il y a un rapprochement énorme entre ces motos sorties de caisse et les préparations WC, puisque on a les 6 premières places sont occupées par des Formula et puis les 5 places suivantes par des Super Stock, notamment pour nos amis belges, la Penske 13. Sur laquelle évolue Grégory Fastray, champion Superbike belge, et puis aussi deuxième type belge, DG Sport Aeroc, le team basé à Spa-Francorchamps, qui est en 11e position avec son numéro 9. Voilà, il y a une vraie bagarre ici sur la piste. En termes d'abandon, parce qu'il faut quand même en parler, on a à peu près maintenant 15 d'abandons sur les 50 d'équipages qui étaient au départ de ce 76e Boldor.
Gilles, il faudrait. Tu peux nous parler de cette BMW hein, qui a dû abandonner hier après 3 heures de course après le départ.
Bah en fait, c'est vrai qu'il y a eu une grosse chute de Damien Pedlin avec cette BM. En fait, dû à ses conditions changeantes, où il tombait quelques gouttes et il s'est fait surprendre. Et la moto était, euh, été reconstruite et est repartie aux mains de Sébastien Gimbert, qui, constatant que de l'huile coulait sur sa botte, a préféré rentrer au stand, et en fait le carter moteur a été fendu et ils ont dû abandonner la mort dans l'âme, vous imaginez bien, puisque eux par contre jouent le titre mondial qui leur a échappé de peu l'année dernière, à quelques dixièmes de seconde, quelques centièmes dixièmes de seconde. Et là, cette année, bon, c'est un résultat blanc en bol d'or. Alors c'est pas forcément catastrophique, mais quand même ça peut pénaliser le résultat final.
Oui, ces motos, c'était les favoris, hein, pour cette année, en 2012.
Ils étaient parmi les favoris, parce que voilà. Ils étaient parmi les favoris, indéniablement. Voilà, mais malheureusement, ils sont hors course et ils ont été hors course très rapidement. Ils ont parcouru 54 tours en tout et pour tout. Alors que maintenant, les types de tête sont plutôt dans les 700 tours. Quoi.
Bon, très bien. Bah, Gilles, on se retrouve d'ici quelques minutes.
Si dans,
tu peux avoir un...
Voilà, on va avoir des gens en direct. Voilà.
Très bien. Bah, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Until you wake up, you can spend half your days half asleep. I try to take up just the space I really need. Every wind in the river finds its own way down to the sea. Open, still I saw what I wanted to see. I'm realizing where I'm at, where I'm supposed to be. Every wind in the river finds its own way down to the sea. Down to your knees, yeah, it'll hurt you. Make you holler, baby, please, baby, down to the sea.
Le rendez-vous des motards, c'est sur Campus en 6,6. C'est tous les dimanches de 11h à midi. Voilà, on continue notre émission 100% sportive. On va retrouver Gilles d'ici 5-6 minutes. On laisse le temps de descendre de la salle de presse, de descendre de après sur le paddock pour nous trouver peut-être un pilote ou un team manager. Nous sommes en compagnie de Claude, Claude Bonduel. Claude, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
De Nicolas, c'est notre pilote, c'est notre one master à nous, à qui qu'un coup t'es tout pas, là, sur notre
bonjour.
Site, hein, kinc.free.fr.
Bonjour, oui.
Bon, Rudy aussi, Rudy, d'Objectif Moto. On va parler donc de ce championnat du monde de vitesse, hein, qui a commencé dimanche dernier au Qatar, hein, sur le circuit de Losail. Alors bon, il y a des nouveautés en 2012, hein, y a cette fameuse catégorie Moto 3 hein, qui arrive.
Et oui, toute nouvelle catégorie.
Et ça veut dire tout simplement que ça y est, le moteur
de
temps
voilà.
Le troisième round
est disparu. Voilà. Des grands prix, c'est le troisième round, puisque le premier, ça a été l'illumination des 500 cm3 pour le remplacement des motos grand prix. Tu te souviens de la date ?
Oh non, je me souviens plus.
2002.
Mais je savais que 2002. Toi, tu savais.
Il y a deux ans, en 2010, ouais. C'est les 250 de temps qui ont disparu au profit de Moto2.
Voilà, ouais.
Et en 2012, bah, c'est les 125 de temps. C'est fini, les frelons, comme on appelait, ils ont disparu au profit du 4.
Donc c'est terminé, on ne va plus entendre ces fameux bruits là, de ouais, strident. Là, hein,
si, pareil. Il y a toujours une course avec les anciennes KTM pendant les Grands Prix, sur 5-6 Grands Prix. Où ils font aussi une sélection de jeunes pilotes de moins de 16 ans, je crois, enfin un truc comme ça, 15-16 ans.
Ah oui, c'est la Rookie Cup.
Oui, Rookie Cup ouais. Qui continue cette année ou l'année prochaine encore.
Donc alors, cette fameuse catégorie 3, c'est pas des 125 forcément, hein, on n'arrive pas à avoir la même puissance sur un moteur 4 temps qu'un moteur 2 temps.
C'est un monocylindre, oui. Pareil que les 2 temps, mais en 250 cm3, qui est à peu près, ce qui est jugé à peu près équivalent. Par contre, ils ont rajouté 15 kg de plus à peu près hein, au niveau des machines, mais les cadres sont pratiquement identiques, la forme est pratiquement identique. Donc, c'est heureusement au niveau du poids, de la taille de la machine, c'est 148 kilos.
Pilote compris.
Avec pilote compris, voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et ça, c'est bien. Ouais. Ça veut dire que le pilote est pesé avec sa machine et il faut qu'il reste au-dessus de 148 kilos.
Alors, on a vu cette première course au Qatar là, avec Vinales, Maverick Vinales, qu'on avait déjà découvert l'an dernier, qui a gagné, comme tu disais, quatre grands prix.
Oui. Déjà. Ouais.
Oui, donc là, il confirme, puisqu'il a gagné cette première course de Moto 3, la première fois, premier vainqueur de la catégorie Moto 3. Mais par contre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit jeune qui était estomacant, c'était Romano Fenati. Hein. Alors Romano Fenati, moi je connaissais pas. En fait, il s'agit du champion d'Europe 2011. Hein, c'est un Italien et c'est assez curieux parce qu'il avait commencé les essais hivernaux sur une écurie qui était Yoda, oui. Une écurie donc avec un moteur
avec Yoda. Oui. Justement, c'est le petit moteur supplémentaire. Il y a trois moteurs en 125.
Je m'excuse, vous interrompre, parce que au contraire, moi je suis aussi très intéressé par la conversation, mais malheureusement. Nico, on a un autre ami Gilles.
Heureux dans les joies du direct.
Malheureusement, parce que je suis aussi. De t'interrompre, ça, je veux dire. Mais heureusement, on a aussi Gilles qui est là-bas, donc en direct du Bol d'Or. Et bon, vous savez que comment ça se passe.
Priorité,
hein, on lui laisse la priorité. Ouais. Ça, c'est absolu. Donc, Gilles, tu es en ligne. Ah, mais par contre, on va avoir des petits problèmes de téléphone.
c'est la machine de tête qui est Kawasaki.
Gilles.
Oui.
Ça y est, tu es à l'antenne. Hein.
Voilà, je suis à l'antenne. Donc, je suis avec Gilles Saffler, team manager du team Kawasaki SRC, qui est la machine actuellement en tête de la course. Alors, Gilles, beau duel avec le C.
Oui, effectivement, c'est un duel qui dure depuis un bon moment maintenant. Bon, les conditions météo sont vraiment très délicates, donc tout le monde doit faire très attention. Mais bon, on essaye de maintenir l'écart.
Ce qu'on a vu hier, quand même, parmi les meilleurs des pilotes se faire piéger par les conditions de course absolument presque inédites hein, ici sur le bol, parce que en fait, le changement de date fait que ici on a une saison plus froide que d'habitude, où d'habitude on a le soleil.
Oui, c'est vrai que non seulement il pleut, mais en plus il fait vraiment très très froid, ce qui rend la tactique de course encore plus compliquée, notamment au niveau des pneus, pour ne pas se tromper et faire toujours le bon choix.
Alors, côté pneumatique, on a trois manufacturiers qui se taillent la bourre, on dirait, en trois premières places. C'est au moins inquiétant.
Oui, c'est vrai que c'est très bien. Il y a également trois marques différentes de motos. Donc oui, c'est bien.
Alors comment tu penses que ça peut... Enfin, je veux dire, on a vu aussi Vincent Philippe hier, surpiégé, le malheureux, il voulait aligner son huitième victoire au bol. C'est quand même dommage de ne pas avoir un rival, partir de...
Oui, c'est vrai que ça doit être très décevant pour lui. Et bon, moi je lui souhaite un bon rétablissement. C'est vrai que c'est dommage parce que bon, ça aurait pu faire une très belle course aussi avec Vincent, qui je pense aurait été encore plus difficile pour nous.
Et comment vont les pilotes? Alors Olivier Four, Grégory Leblanc et Julien Lacosta.
Bah, je dirais que Grégory et Julien sont un peu fatigués parce que je les ai pas mal sollicités, mais bon, Dominique a fait la même chose avec les deux pilotes qui lui restaient. J'ai mis un peu au repos Olivier Four pendant la période sèche, et maintenant, par contre, je sors mon arme, c'est-à-dire que je vais le faire rouler le plus possible jusqu'à l'arrivée.
Et donc là, tu penses là maintenant ne plus être rattrapé par personne?
Ça on peut pas le dire, je peux pas le dire et je pense que personne peut le dire. C'est l'objectif, bien sûr.
Merci Gilles, en tout cas, pour ta gentillesse et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Alors, oui. Bien entendu, donc, le leader de la machine de tête, je vais m'extraire de ce box et je vais rejoindre peut-être Christophe Guillot, éventuellement.
On se retrouve dans quelques instants.
Dans quelques minutes, voilà.
D'accord, ben, nous, on va continuer sur les résultats de la Moto 3 de dimanche dernier. Voilà, Nico, vas-y.
Oui, on parlait donc de Romano Fenati.
Je vois tes paroles.
Qui était donc un petit jeune qui vient d'arriver en Moto 3. Et donc, il était prévu pendant les essais hivernaux qu'il roule avec la Yoda. Une écurie qui avait, en fait, tout a été en développement, puisqu'ils ont un moteur spécifique qui était en développement. Et la fédération italienne de motocyclisme l'avait repéré lors des essais hivernaux. Il lui a dit non, on va te fournir une moto, parce que eux ont en fait ce principe de ne pas donner aux jeunes pilotes des motos en développement, en disant le développement c'est trop compliqué à faire pour un jeune, donc il faut une bonne machine, il faut laisser sa chance, une première année tout au moins. Et donc c'est la fédération italienne de motocyclisme qui lui a fourni une FTR Honda, donc une des meilleures motos. Et avec cette moto, il a fait vraiment un festival, puisque lors des essais, il a réussi à avoir le premier temps. En course, il s'est battu, il est parti en tête. Vinales a eu du mal à la rattraper. Et en fait, tous les deux, Vinales et Fenati, terminent avec 18 secondes d'avance sur le second, alors qu'on est quand même dans une catégorie où les moteurs sont très proches, où les particules sont très proches, et donc c'est quelque chose qui m'a
vraiment impressionné beaucoup de gens, je pense. C'est le fait de partir en tête, de larguer les autres, et même Vinales, à un moment donné, qui était en bagarre, n'a pas pu se détacher. Une fois qu'il s'est détaché, Vinales, il est revenu dessus, mais la chose vraiment qui a marqué, c'est qu'il s'est accroché derrière sans chercher à faire plus que la normale. C'est-à-dire que dès que ses pneus ont été usés, il a lâché quelques dixièmes à chaque tour, quoi, mais tranquillement. Je veux dire, on a senti quand même une maturité énorme.
Tout à fait. Alors qu'il a 16 ans, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais,
bravo.
Bah, maintenant, ils peuvent plus. 15 ans, c'est fini. Hein. Il faut 16 ans évolués pour courir. Puis surtout, ce Grand Prix, c'est un renouveau au niveau pilote, parce que dans les 15 finalistes, on va dire, qui marquent des points, il y a quand même 5 pilotes qui n'ont jamais couru en Grand Prix, hein, qui ont fait tout à fait autre chose. Hein. Il y a même un Français, un Teicher.
Oui.
Hein, qui a quand même fait une bonne course et fini 11e.
Oui, on a deux Français.
Alors,
ces
pilotes à 16 ans, ils viennent d'où ces pilotes? Parce qu'ils ont dû passer par des formules de promotion.
Alors, c'est soit le championnat d'Europe pendant un an ou deux, ou champion d'Espagne, qui est quand même bien relevé. Par exemple, Fenati, avant de faire le championnat d'Europe, il a fait le parcours champion d'Italie. Voilà, c'est tout.
D'accord, donc en fait, et on a quand même deux petits Français en catégorie Moto 3.
Oui, hein, trois Français.
Trois Français,
oui.
Il y a Masbou,
mais Masbou a été percuté dès le premier tour et il a été foutu en l'air. Non, il n'a vraiment pas eu de chance. Surtout qu'en plus, il manque de financement pour finir sa saison et ça va être un peu dramatique.
Et Louis Rossi qui a fait des beaux essais.
Louis Rossi, un super essai en première ligne et tout ça.
On
attendait plus et puis il s'est trompé dans son pneumatique d'après lui. C'est un pneu trop dur et il n'y avait plus le feeling qu'il y avait.
Et il a dit qu'en course, son moteur fonctionnait mal.
On le sent
sentait, de toute façon, il lâchait tout doucement.
Il lâchait tout doucement. Tout doucement.
Là, vous n'allez pas m'en vouloir, quand même, de vous couper.
Il a dit quelques minutes.
On a dit priorité à Gilles là-bas sur le circuit de Manicourt, Nevers, Manicourt, là-bas au Bol d'Or. C'est quand même l'actu, c'est le fait majeur aujourd'hui. Gilles, tu es à l'antenne.
Oui, voilà, je suis à l'antenne, je suis avec Grégory Fosseret, donc tous nos amis belges connaissent très bien, puisqu'il est double champion Superbac de Belgique. Bonjour Grégory.
Bonjour tout le monde, ici à Manicourt, il pleut et il ne fait pas super chaud, on commence vraiment à avoir froid, et au final, il a fini la course, parce que là, pour l'instant, on est en tête du Superstock, et on est septième au général, et pour l'instant, ça va, mais c'est vraiment très très froid.
Que vous venez de passer juste à l'instant, alors que c'est de la tuée à chaud, devant la 24 3D Endurance d'Emmanuel Lapuissière. Alors évidemment, cette année, vous visez le titre.
Ben oui, on vise le titre, lui, je sais.
Ah, ben là, le titre, il est interrompu. Bon, ben, donc on va terminer avec cette catégorie Moto 3. Il y a combien de participants, de pilotes
Il y a 24 participants. Et je reviens sur ce que tu as dit, Fenati avait fait le 7e temps au niveau des essais. Hein. Mais c'est exceptionnel, je veux dire. Et surtout, on retiendra, c'est les 5 pilotes qui n'ont jamais ont été dans les 15 premiers. Hein. Donc, il y a aussi, on a parlé aussi d'Arthur Sissi qui est terminé 9e. C'est un Australien. On sait que les Australiens, une fois qu'ils viennent en championnat,
en Europe,
souvent ils marquent.
C'est pour faire quelque chose.
Ouais. Voilà, ouais. C'est ça. Il y en a très peu qui ont fait peu de choses. Hein. Donc, même ceux qui n'ont jamais été champions du monde ont gagné des grands prix, ouais. À certains. Donc, faudra retenir le nom aussi.
Bon, ben Claude, on a retrouvé notre ami Gilles là-bas. Tu sais, il y a beaucoup de monde. Alors, les téléphones portables, quelque chose, ça coupe. Hein. Il faut se partager la ligne, il faut couper le tuyau, il faut se diviser. Gilles.
Oui, désolé, donc le réseau a coupé. Je suis toujours avec Grégory qui a très froid, donc on va aller se libérer. Donc Grégory qui vise le titre Superstock cette année avec cette BM. Alors comment ça marche la BM là?
La BM marche très très bien, il se met avec les pneus Pirelli. Puis sous la pluie, il y a une petite différence, mais il marche très très bien aussi. Maintenant, il faut vraiment rester sur le roue, parce que quand je vois les chutes qu'il y a encore maintenant, je pense que le froid est vraiment la cause des chutes. Et ça, parce que même les pilotes sont tétanisés, il y a vraiment des gros problèmes avec ça. Et puis voilà, pour l'instant, ça a l'air d'aller.
Sa première BM, je le souligne, du classement, puisque il y a eu la 99 qui a lâché plus, évidemment, sur le chute. Donc, bravo, Grégory, et merci, on continue aussi. Et on salue tous nos amis belges au passage. Hein.
Et merci à tout le monde, et bon courage pour tout le monde.
C'est tout, Grégory. Il va reprendre la piste dans quelques tours, donc je vais me libérer. Voilà.
Bon, ben, Gilles,
J'ai pas pu aller voir Christophe Guillaume tout de suite parce qu'il avait un ravitaillement.
Non, mais...
Donc, on va se retrouver d'ici une bonne quinzaine de minutes.
D'accord, il nous reste encore 35 minutes, là, à peu près. Hein, voilà, donc, c'est bon. Hein. On se fait une petite pause de musique.
D'accord.
Hein, et bon, mais tu sais que tu as la priorité. À droite.
Merci beaucoup. les
chroniqueurs
qui sont dans le studio.
Ok. D'ailleurs. Off through the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. Like a reptile, she loved him, she loved him, but just for a short while, she'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Let yourself go.
C'est 100% sport aujourd'hui dans l'émission des motards sur Radio Campus Lille. Eh bien oui, parce qu'on se retrouve, on va se retrouver dans quelques instants avec Gilles Fagnan en direct du 76e Bol d'Or là-bas à Magny-Cours. Et puis nous avons des gens qui aujourd'hui, écoutez là, je suis stupéfait. Hein, vous savez tout, les dates.
Tu pourras avoir des autographes.
J'ai sorti le stylo, ça y est. Donc on a parlé moto 3, on va revenir à la moto 2. Vite fait, parce que Moto2, en fait, on prend les mêmes que l'année dernière. Hein, on regarde le Marquez, hein, qui a fini premier du premier Grand Prix.
Oui, justement, on en discutait. La finale, surtout les deux derniers tours, avec l'outil qui était quand même en tête, il l'a passé. Moi, je dis, c'était limite.
Il l'a pas poussé,
mais il l'a empêché de tourner.
Il est passé dans l'herbe et il s'est retrouvé cinquième. Voilà. C'est quand même un petit peu chaud.
Ah, il nous a refait dur aussi.
Il y a 3-4 ans,
quand il pousse ce stunner, quand il passe.
Se mettre à l'intérieur et empêcher de tourner.
Donc il a dû passer dans l'herbe et du coup, il s'est retrouvé cinquième alors qu'il était en tête. Alors qu'il a fait tous les essais en tête. Le Suisse utile, c'est sa révélation, premier Grand Prix de la saison. Et donc, c'est vrai que Marquez, bon, lui, il revient d'une opération des yeux, hein, il avait eu des soucis.
Il a fait
santé.
Les derniers essais, surtout, en plus.
Il n'a pas pu faire les essais normalement. Ouais. Il était un petit peu en demi-teinte, et c'est quand même un pilote de course, comme on dit. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'il est magnifié dès qu'il y a un enjeu, et c'est vrai que là, il avait le couteau entre les dents, mais peut-être un petit peu trop.
Un petit peu trop, oui.
Donc là, on rappelle Moto 2, ça, c'est. Donc ce qui diffère un peu de la Moto 3, c'est que Moto 2, c'est le même moteur. Hein.
Ah oui, c'est le moteur là, et la partie technique, la partie électronique, c'est le même.
Alors,
tous.
Ce principe du même moteur, c'était parti du fait que ça coûte très cher de faire la compétition. Donc les gens s'étaient dit, tiens, les responsables, on va développer un moteur pour tous les pilotes.
Ouais.
Hein, de façon à ce que ça coûte beaucoup moins cher.
Et
puis aussi, ça va donner un peu plus de spectacle.
C'est clair.
Normalement, avec la même puissance, il n'y a que le pilotage qui devrait faire la différence. Mais sauf que la partie cycle, elle est différente.
Oui, c'est les parties cycles, on va dire, techniques. Chacun a sa partie cycle. Hein. Il y en a 6 ou 7. Il y en a grosso modo 3 ou 4 qui dominent un petit peu le reste. Mais il y en a 6 ou 7 au niveau des cadres différents.
Oui. Bon, on a un petit Français, Zarco, là, qui a pris le risque d'aller chez Motobi. Il est tout seul avec ce châssis-là.
Ils sont deux, dont un jeune aussi. Ils sont deux jeunes.
Et donc, il n'y a pas tellement de références. C'est le développement de cette moto. Il va être plus retardé que les Kalex ou les Sutter. Hein.
Pour son premier Grand Prix, il a marqué des points.
Oui, c'est vrai.
Alors qu'il avait fait des essais un petit peu en demi-teinte, en finissant 19e aux essais. Là, il a bien marché.
Il y a un pilote français qui commence à peut-être à
s'y faire, là, la, cette fameuse Moto 2, parce que c'est des Miglio,
c'est hein. Sa dernière alors, saison, à mon avis. Bah, s'il non, fait attends, rien, c'est sa dernière
quand il y avait les moteurs de temps, c'était, on le retrouvait dans les 5 premiers, 6 premiers. Hein.
Oui, il était champion du monde 125. Oui,
et champion du monde 125, Miglio. Ah, oui. Hein, oui.
Les amis, faites-moi plaisir, n'oubliez pas qu'il y a aussi un petit Belge.
Ah,
Xavier Siméon, quand même.
Non, si, non, on n'a pas oublié. Hein.
Alors lui, il ne vous dirait pas que les budgets sont limités en Moto 2, parce que lui, il a quand même encore un peu de mal à boucler le sien.
Ah oui, bah justement, tu vois, imagine que ce serait, c'était resté un peu comme avant. Alors là,
le problème de plus en plus, c'est qu'en moto, c'est bien en Moto 3, c'est le pilote a ramené un certain budget. Ils sont forcés de ramener un budget avec eux pour pouvoir courir.
Et en Belgique, c'est pas simple.
Et c'est pas simple non plus en France.
Non, c'est pour ça, Fenati, il en a de la chance. Hein. Les Italiens, au moins, s'occupent de lui.
Exactement, ouais. Exactement.
La fédération est assez forte pour ça.
C'est un peu la raison pour laquelle on retrouve pas mal d'Italiens et d'Espagnols.
Les Italiens sont légers. Enfin, vraiment en baisse vis-à-vis des Espagnols. Hein. Les Espagnols, ils avaient vraiment tout pour eux. Hein. Au niveau, ça baisse un petit peu dû à la conjoncture actuelle en Espagne. Je pense qu'au niveau financement, ça
va être plus dur. Aussi.
Ouais, ça va être plus dur.
Bon, mais si on se passe un petit morceau de musique, on attaque la MotoGP parce que j'ai peur avec Gilles, tout ça, tu sais qu'il me coince.
Oui.
Non, okay. Un petit morceau de musique. Non.
Oui.
Ok, quoi.
Ok pour un morceau de musique.
Allons-y pour un morceau de musique. Allez.
I'm gonna smoke my hamburger inside. That's what I'm gonna do.
Bon messieurs, je pense qu'il est temps de parler de cette fameuse catégorie MotoGP. Alors 1000, hein, on est revenu à 1000 l'année dernière, c'était... au début tu m'as dit quand est-ce qu'on est passé de la 500 à la MotoGP.
En 2002.
Oui mais c'était en 1000.
C'était en 1000, hein, oui, tout à fait. Non, mais
c'était en 1000. C'est revenu à 800.
C'est revenu à 800 pour une question de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de puissance, trop de vitesse de pointe. Et donc on est passé à 800. Et puis on s'est rendu compte que sur un tour, ça allait plus vite.
C'est encore pire.
Ça allait plus vite.
Ah bah oui, forcément, c'est plus léger. Et puis,
vitesse de pointe. Ouais. Mais sur un tour, les 800, au bout de la deuxième année, ils battaient pratiquement tous les records.
Et regarde, Claude, j'ai 350 km/h en bout de ligne droite là-bas à Losail. Il faut déjà avoir les bons freins.
C'est 1000. Technologiquement, ils ont encore avancé au niveau freinage, au niveau pneumatique, au niveau de tout. Et ce qui fait que la vitesse...
Donc 1000, on passe en 800, on revient en 1000. Mais tout ça, ça a coûté beaucoup d'argent aux constructeurs quand même.
Oui, mais normalement, c'est garanti jusqu'en 2014 où le championnat ne changera pas au niveau de la structure. La seule chose qui peut changer, c'est la diminution des réservoirs, par exemple, au niveau de la consommation. Et au niveau,
il parle aussi de tour minute.
Voilà, c'est ça. Hein, la puissance électronique, ils voudraient instaurer une électronique.
Un boîtier qui
limite. Pour l'instant, Honda et Yamaha ne sont pas d'accord. Donc pour l'instant, ça reste en statu quo.
Stand-by. Donc, ce Grand Prix du Qatar, l'oseille, c'est ça, c'est l'oseille. C'est l'oseille.
Tu crois pas si bien dire.
Ah, il y a du pétrole, c'est de l'oseille. J'ai l'impression un petit peu, c'est un petit peu comme c'est le début du championnat, hein, c'est la première course. Je sais pas, on commence un petit peu comme ça, on arrive un petit peu pour voir un peu les forces, un peu si.
Par des temps. Des temps autour, il s'explique sur un Grand Prix, c'est-à-dire un ensemble de tours. Globalement, ce n'est pas exactement pareil.
Je pense que ce n'est pas la vision du championnat. Il faudra voir la prochaine course, là, donc dimanche prochain.
Oui, n'empêche quand même, on retrouve les trois premiers, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, 17 secondes, le quatrième.
Les trois ont dominé.
C'est
large.
Honda et la Yamaha. Il y a quand même le pilotage, quand même, ils sont au-dessus du lot. Il n'y a rien à faire. On les retrouvera, ces trois-là.
Oui, ça confirme les essais hivernaux, de toute manière.
Et donc, tu voulais parler aussi du problème de chattering de Karl Kruschlo et Ben Spies.
Mais je me demande si on va pas avoir Gilles en ligne, et donc le chattering reviendra après.
On a Gilles en ligne, et Gilles qui est avec Christophe Guillot. Allô, Gilles, c'est à toi.
Oui, alors on est avec Christophe Guillot dans le stand du GMT 14. Alors Christophe, une course particulièrement compliquée.
Oui, mais en tout cas passionnante. Hein. On est pour l'instant en bonne position, on croise les doigts, on est en troisième place pour l'instant. Et c'est vrai que si on pouvait faire un podium, c'était super pour nous.
Évidemment, et même peut-être un peu mieux que troisième, c'est possible encore, la course n'est pas terminée. Et puis, alors c'est vraiment une course à la fois de pneumatique et aussi, mais surtout de pilote, puisqu'il faut rester sur les roues, là.
Oui, le but du jeu, c'est d'abord d'essayer de ne pas faire d'erreur. C'est pour ça que pour l'instant, on a resté, on va dire, moyennement ambitieux, et un podium nous satisferait complètement, parce qu'on a eu trop de déboires par le passé. Donc démarrer la saison par la troisième place, ce serait magnifique. Mais c'est vrai que l'erreur est là, elle guette.
Ce serait effectivement de bon augure pour le championnat du monde, dont on sait que l'an dernier vous étiez troisième, alors vous êtes encore troisième, et là il va falloir grappiller des places, alors il va falloir encore travailler, mais bon, c'est en bonne voie je pense.
L'an dernier on termine troisième du championnat du monde, après avoir commencé huitième au Gold d'Or, hein, après une grosse chute en début de course. Donc si on démarre la saison par la troisième place, on est tout à fait en lice pour viser le titre ensuite.
Alors, comment se sentent les pilotes, là, après, maintenant, près de 20 heures de course?
Ils se donnent à fond, ils savent que maintenant, ils sont sous tension, parce que le but n'est pas d'aller chercher les deux motos devant, c'est de conserver notre place, et là, dans les conditions très pénibles, ils savent que, d'ailleurs, on a pu voir, hein, qu'il ferait la moto, c'était les gens, est tombé juste devant ses roues, et il a failli être embarqué, hein, dans la chute, il y a un facteur chance. Pour nous, ça s'est bien passé, mais on n'a pas vu de rien.
Donc c'est vrai, pour vous, la légende continue, Christophe, et tant mieux. On est bien content pour vous, alors on suit ça à la fin de course, hein, Christophe. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions de l'émission Les Motards tous les dimanches matin. Sur Campus Lille, et vous pouvez retrouver effectivement l'émission sur le net. Merci, bon. Christophe. Voilà, alors vous entendez derrière moi les bruits de fond des machines qui passent à fond de balle sur la ligne droite. Bon, on peut pas...
Ah, c'est pas du trucage, hein, t'es vraiment là-bas à Ménicourt. Hein.
Voilà, alors là, devant moi passe voilà, une machine, R1, vous entendez les bruits caractéristiques de R1. Voilà, là, on peut pas faire mieux que ça. On est vraiment.
Hey, donc, c'est du super direct.
Voilà, on se retrouve peut-être 5 minutes avant.
Bon, on continue à commenter le Grand Prix de dimanche dernier, hein, Gilles.
D'accord. Et puis 5 minutes avant la fin, on se rappelle pour un point de course en direct de la salle de presse.
Okay. D'accord.
Merci beaucoup. Bon, à tout à l'heure.
Bon, voilà, donc on continue donc MotoGP. Excusez-moi, j'étais au téléphone. J'ai pas suivi votre conversation.
Bon, reprenez, oui, le MotoGP. Donc, il y a plusieurs événements. On disait qu'on avait retrouvé les trois premiers. Lorenzo, Pedrosa, Stoner. On ne sait pas dans quelle ordre on les retrouvera cette saison, mais en tous les cas, ils sont devant et ils ont fait le trou par rapport aux autres. Rossi toujours à la traîne. Il faudra qu'on en parle quand même.
Oui, la Ducati, ça marche pas. De toute façon, même à Maiden n'a pas réussi à faire des essais extraordinaires, Rossi, mais...
Rossi, à mon avis, il y a un problème pilote. Hein. C'est le pilote, il y a un problème. La moto peut-être, mais alors...
Oui, il y a aussi peut-être une démotivation sur le résultat.
Oui, puis il a fait tout changer la moto. C'est-à-dire que l'an dernier, c'était une moto nouvelle. Cette année, il a tout fait changer. Changer le moteur, changer la partie cycle, puisqu'il est revenu à une moto à la japonaise. C'est une moto en développement hein, par rapport aux autres qui ont l'expérience quand même des 800 qui sont fait évoluer en 1000.
Oui, aussi.
Je pense que ça doit jouer. Et puis, Ducati doit commencer à en avoir marre de changer de à droite à gauche. On parle dans la presse de petites tensions quand même.
Je pense, oui.
Ils payent très cher aussi et il n'y a pas beaucoup de retour sur l'investissement.
Hein, oui, et la presse britannique signalait aussi les commentateurs de la télévision, de la BBC notamment, qui disaient que pour lui avoir parlé, il trouvait aussi anormalement détendu.
C'est pas normal.
Ouais, non, non.
Comme s'il avait perdu sa motivation.
Comme s'il avait perdu sa motivation.
Un pilote qui se trouve en 12e position, enfin pratiquement en dernier sur la grille.
Des prototypes, oui.
Il peut pas être détendu, c'est pas possible.
Surtout quand il s'appelle Rossi.
Et surtout Rossi. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que. Moi, je pense qu'il est. C'est la passation, là. Non, c'est depuis son accident, là, en fait. Il y en a un qui dit, c'est Stoner, il dit, depuis son accident, Rossi, là, il a lâché le morceau.
Et puis il a perdu Simoncelli.
Et puis il a perdu son super pote l'année dernière, Simoncelli.
Voilà, c'est ça. Il y a peut-être deux causes à effet possible. C'est difficile, il faut voir la suite. Je pense qu'à la fin du championnat,
j'ai peur,
on pourra
c'est
voir.
Il devrait terminer sur un piédestal. Là, s'il continue, il va finir. Imagine qu'il se termine après les CRT.
Pourquoi à chaque fois il faut s'arrêter en haut de sa gloire?
Si on aime le sport,
je suis pas d'accord. Je trouve que si tu as toujours autant de passion, mais même tu y arrives moins bien, et si on te
moi ça me fait
ça autant
fait,
continuer
ça
ta
me fait
passion,
de la peine, Claude, de le voir.
Lui en tout cas, il dit qu'il a toujours faim. Dit qu'il a toujours aussi faim qu'avant, même s'il a pris de l'âge.
Et tu viens de nous dire que apparemment les journalistes de la BBC avaient trouvé anormalement des contrats.
En même temps, il faut se mettre à la place des journalistes. Il faut essayer trouver une raison.
Oui,
donc c'est pas forcément vrai.
Tout le monde gamberge. Mais c'est vrai que Rossi, lui, Hayden, la moto, elle dit qu'elle est mieux et ça lui convient, mais Hayden a fini à la 6e place. Rossi, lui, il va être sur le podium ou rien. Donc, à la limite, si la moto, elle est pas capable d'aller sur le podium, il est démotivé. Je pense qu'il y a un petit peu de ça.
Possible. Ouais. À sa place, peut-être qu'on ferait pareil.
Puis ce Grand Prix a montré vraiment des différences entre les trois pilotes, comme on a dit, les 15 secondes entre le quatrième et les trois premiers. Quoi. Ils ont vraiment éclaté
sur une autre planète.
Une autre planète. Mmh. Ils ont évolué sur une autre planète.
On se fait un break. Comment on dit en Belgique? Un break.
Un break.
Non, un break une fois.
Un break une fois, allez.
Un break une fois.
I got the feel now. Give me the feel now. to bear would be locked up with rotting care. I got the fear now. Give me the fear now. Liars, thieves, and politicians, Kama Sutra in 20 positions.
Allez, il nous reste 7-8 minutes, il faut absolument aller très 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 vite comme en Grand Prix, Claude, en MotoGP sur la ligne droite de, du Qatar là-bas, à Losail. À Losail plutôt. Rudy, alors tu vas nous...
Moi j'allais revenir, voilà. J'allais revenir sur le cas de Ben Spies. Mais lui justement, il n'est pas allé si vite que ça. Et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que quand Lorenzo est venu lui serrer la main après la course et lui a demandé quel résultat il avait fait, il a fait un geste de dépit en montrant sa moto, en tapant sur le réservoir. En fait, on a appris après qu'il a été victime de ce qu'on appelle le chattering. Ah, le chattering, ça c'est le cauchemar de tous les ingénieurs en Grand Prix. Alors...
C'est un mec qui parle beaucoup, ça, Chattering, non ?
Oui, ça, c'est le chat, c'est ça aussi, oui. C'est parce que le chat, ça vibre, ça n'arrête pas. Alors, le chattering, c'est quoi ? Ben, en fait, c'est une entrée en résonance à une fréquence critique de toutes les pièces mobiles de la moto, principalement des suspensions. Mais, pour faire simple, on va dire que c'est une vibration. Et quand on interroge les ingénieurs, ben, on sait que ce chattering, il peut intervenir soit à grande vitesse en ligne droite, mais c'est plus rare, soit le plus souvent quand il est à compression des suspensions, c'est-à-dire soit à la réaccélération ou au freinage. Et très souvent, c'est au freinage. Alors, le cauchemar de l'ingénieur, c'est le chattering de l'avant. Parce que quand la moto se met à vibrer à l'avant, évidemment, le seul moyen de corriger, c'est de chipoter à la suspension. Tandis que quand le chattering intervient à l'arrière, là, il y a des tas de paramètres sur lesquels on peut jouer, comme même le frein moteur, comme l'ancrage de bras oscillant, comme le réglage de suspension, naturellement. Enfin, là, les paramètres sont nombreux, donc c'est pas trop un grave problème. Mais à l'avant, ça, c'est un vrai souci. Et c'est ce que Ben Spies a eu, le chattering de l'avant, qui rend la moto, en fait, inconduisible, et le feeling du pilote s'évapore au fil des tours. En général, on estime qu'un pilote qui subit le chattering perd environ 2 secondes au tour. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé, puisqu'on a très bien vu en fin de course que Colin Edwards lui collait au basque de plus en plus.
À 2 secondes et quelques, il a fini juste...
2 tours de plus et Edwards était devant. Ah, et c'est effectivement 2 secondes au tour qu'il perdait à cause de ce chattering.
Ouais. Et Lorenzo, on va finir par dire aussi que la victoire de Lorenzo est quand même super, parce qu'il s'est toujours accroché. Pourtant, il y avait 5 secondes de retard sur Stoner et il a fini quand même par
gagner. Il aurait pu craquer à un certain moment.
De toute façon, Pedro, c'est quelqu'un qui s'accroche.
J'ai même cru à un
moment donné qu'il attendait ça pour passer. Mais...
Il est passé, mais il s'est fait repasser aussi sec.
Il manque toujours un peu de niaque, le petit.
Mais c'est vrai que Lorenzo, il a une stature. Il a une stature, une maturité. Il a fait plaisir de voir qu'il n'a rien lâché.
Il lâche rien. Il lâche jamais rien.
C'est mental. C'est,
sa chute, c'était ça. Hein, la dernière chute où il a été blessé, c'est parce qu'il a jamais lâché et il est tombé, justement, parce que sa moto n'était pas suffisamment bien réglée pour ça.
Il a du panache, ouais. Il a du panache.
Et autrement, c'est vrai qu'on a vu Bradle et Crutchlow, qu'on n'attendait pas à si belle place, y compris pendant les essais.
Ah, Bradle, super la course qu'il a fait. Sixième très très longtemps avant de rétrograder doucement. Et surtout aussi, la bagarre avec les deux, Dovizioso et Crutchlow
ouais,
qui se sont battus.
C'est sympa.
Comme des chiffonniers aux grandes dames de leur time manager qui se rongeaient des ongles parce qu'ils auraient pu aussi s'accrocher. Qu'ils ont vraiment rien lâché, ni l'un ni l'autre.
Alors moi j'ai noté, si vous me permettez, j'ai noté une déclaration de Bradle qui était assez étonnante. C'est qu'il a dit après la course, finalement je me sens moins fatigué que je ne pensais. Je croyais que j'aurais été exténué, je me sens moins fatigué que je ne pensais sur une mile.
Oui.
Mais il a fait pas mal de sport aussi.
D'après les pilotes, ils disent que la 1000 est plus facile à emmener que la 800.
Je m'excuse, messieurs, mais Gilles nous fait l'intérieur dans le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Il est là, en ligne.
Il nous pousse dehors, dis donc.
Il nous pousse dehors, on a tous poussé dehors.
La
voilà.
Suite à Gérèse,
et Gilles gagne, grand prix de. Ah bah non, il a raccroché. on continue notre petite conversation.
On a bien fait de tenir le coup.
Finalement, il terminera dernier. Voilà. Et donc, on continue, on va terminer, il nous reste quelques minutes avec ces MotoGP. Allez-y, je vais...
J'ai encore quelque chose à vous dire, si vous voulez. J'ai trouvé des déclarations bien intéressantes de James Ellison. Bon, pour le moment, c'est vrai qu'il est un peu abonné à la dernière place en MotoGP parce qu'il a des essais... Enfin, il est en retard dans le développement de la moto, etc.
Oui, on a oublié de parler des CRT.
Pas si largué que ça, finalement.
Non, pas si largué que ça. Non, bon.
Il est revenu. Il est revenu, et comment il a fait, mais il ne passera pas la ligne d'arrivée en premier. Je vous le garantis, Gilles.
Oui, alors je suis avec Nicolas Goubert, donc responsable technique moto chez Michelin. Alors chez Michelin, on adore la compétition, on adore le qui est des challenges à relever. Alors cette fois-ci, vous êtes particulièrement gâté.
Oui, effectivement, avec des conditions extrêmement changeantes sur ce bonheur, des températures très froides, du sec, de la pluie, de la bruine. Donc effectivement, on est gâté.
Il faut rappeler quand même qu'il y a trois marques de pneumatiques et trois marques de moto différentes aux trois premières places. Vous pouvez quand même espérer un podium avec le GMT là. Enfin.
Oui, bien sûr, là le GMT est en troisième podium. Il vise un podium, il reste encore plusieurs heures de course, donc on ne sait pas sur quelle marche du podium, mais il vise bien sûr un podium. On a aussi une autre Yamaha en quatrième position, donc on est bien placé pour accéder au podium.
Après, il y a d'autres petits challenges. Il y a le Louis de Moto, je pense. Vous êtes aussi partenaire avec Guarnoni et Loris Brest pour faire un début de course absolument resplendissant.
Effectivement, un début de course resplendissant. Et même ce matin, si vous avez noté, sous la pluie, Loris Brest a doublé un relais avec des temps époustouflants. Il tournait 3-4 secondes plus vite autour que les machines de. Donc là, on est enchanté. Malheureusement, il a été retardé par des problèmes mécaniques. Donc il ne joue plus la victoire dans sa catégorie, mais il fait absolument une démonstration fabuleuse.
Il faut rappeler que Loris Baz a 19 ans, en fait, et Guarnoni, c'est pareil, c'est des jeunes qui sont en vitesse et qui sont venus faire de l'endurance. On en a ravi parce que il y a quand même tout un... Enfin ici, à Manicourt, on a mis le paquet pour l'endurance, hein, en fait, et ça nous ravit parce que c'est un moment quand même que l'endurance était... moins bien médiatisé, alors ça commence à revenir un peu.
Effectivement, ça revient, et puis de voir des jeunes comme ça qui apportent du sang neuf, qui font des chronos époustouflants, qui n'ont pas fait d'erreur, qui étaient aussi rapides sur le sec que sous la pluie, eh bien c'est parfait pour les courses d'endurance. Ça va ramener le spectateur.
Merci beaucoup, merci à Michelin d'être présent, en tout cas sur cette épreuve et sur l'endurance, et d'être revenu en fait en endurance, d'être pas si en tant que ça, de manière plus prégnante. Et puis pour terminer l'émission, moi je vais vous rappeler quand même que la Kawasaki numéro 11 est en tête. Alors c'est pas Michelin, c'est Pirelli, mais bon voilà, ça sera des challenges à relever pour la suite. Et puis on a quand même une moto différente, hein, donc on peut pas comparer comme ça de manière aussi brute. Et puis le CERT qui a chuté il y a quelques minutes, une glissade d'Anthony Delal a perdu la pole position. Elle est comme maintenant à un tour, et puis derrière on a toujours le GMT. Alors cette fois-ci, chaussée Michelin, et puis la deuxième Yamaha du Herbe, donc deux Yamaha aux cinq premières places et deux motos Michelin. Bonne chance pour Michelin, en tout cas, et merci d'être intervenu dans l'émission. Voilà la niche, ce qu'on pouvait dire.
Ok, merci Gilles. On va te laisser parce qu'il nous reste, on va mettre le générique, hein, il nous reste 2 minutes. Et merci donc pour les interviews. Hein.
Mais je t'en prie.
Et bientôt. Puis, bon retour.
Allez, merci beaucoup à vous et bonne fin d'émission.
Allez, salut.
Le pronostic.
Alors pour les motos Grand Prix. On va terminer comme d'habitude, comme tous les ans. La tradition, c'est de faire le tiercé. Hein, le tiercé, donc, pour ce fameux championnat du monde 2012. Alors, Claude, allez, vas-y, commence.
Bah, avant le Grand Prix, j'avais déjà marqué Stoner pour moi. Même avec une moto pas bonne, il peut gagner.
C'est la première fois que tu le donnes.
Oui, c'est la première fois que je le donne. L'année dernière, non, j'avais mis deuxième. Et je pense que Pedrosa, c'est son année aussi. Je pense assez mûr.
C'est maintenant.
Et Lorenzo. Ouais. Lorenzo en troisième ou deuxième, je sais pas trop. Là, vraiment, cette année, je crois que ça va jouer vraiment entre ces trois-là.
Allez, vas-y. Audi.
Alors, pour moi, je vais la jouer sur les trois catégories. Pour moi, c'est 100% espagnol. Ça sera Vinales, Marquez et Lorenzo en MotoGP.
Ah oui. Marquez aussi en Moto 2, oui.
Ouais. Moi, je dis Vinales, Marquez et Stoner. Parce que je pense que Stoner, il est cette année.
Même avec une moto non finie, il gagne.
Ah oui, non.
Vous avez marqué tout ça là, parce que sinon on va l'oublier. Hein.
C'est enregistré.
Ah bah oui, c'est vrai que ça c'est enregistré. Donc au dernier Grand Prix de la saison, ce sera, je vais vous le dire, ce sera le 11 novembre. Là, on a le temps encore. Hein. Et puis je rappelle aussi que le Grand Prix de France, c'est le 20 mai. Voilà, bon, l'émission se termine, il nous reste 50 secondes. Merci messieurs d'être venus aujourd'hui dans l'émission des motards, qui qu'un coup t'es tout pâle, c'est le magazine de la moto sur Campus Lille.
Avec plaisir la miche.
Et on se retrouvera d'ici, je sais pas moi, peut-être faire un petit point sur la saison.
Ouais,
Pas de
plaisir. Volontiers.
Voilà, merci, allez, passez
un bon dimanche à tous.
Au revoir. Salut à tous.